Arnaud Campagne, bonjour. Nous ouvrons une semaine qui sera consacrée à partir de demain au département de l'Yonne. Alors je dis demain non pas parce que ce département manquerait de propositions, mais parce que nous donnons parfois la parole à d'autres personnes, à des confrères, entre autres, qui de plus en plus s'intéressent aux initiatives citoyennes, qu'elles soient étroitement localisées ou qu'elles soient à l'origine d'un réseau national. Ces médias et journalistes des bonnes nouvelles sont qualifiés de journalisme ou journalistes de solutions. Personnellement, je ne sais pas si le terme de solution est le meilleur pour désigner cette attitude positive. Je préfère un journalisme des résolutions et parfois, en certaines circonstances, un journalisme de prévention. Prévention aux grandes questions qui agitent les esprits. Comment mieux se nourrir et se nourrir moins cher? Comment habiter en réduisant ses consommations d'énergie? Comment monter des projets en sortant du rêve inaccessible de la réussite individuelle en travaillant avec d'autres personnes? Ou comment prendre en main son propre destin sans attendre une réponse qui tarde à venir et qui parfois ne vient jamais? C'est sur ces fondamentaux que le magazine Ça m'intéresse s'est penché sur dans son numéro de février. Les carnets l'ont lu, apprécié ce dossier, présenté par Frédéric Carpita.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Frédéric Carpita, bonjour.
Bonjour Philippe.
Frédéric, notre confrère de Ça m'intéresse, le magazine de la curiosité, numéro de février. Vous, vous êtes curieux, vous spécialiste du secteur social et économique, des alternatives.
Il y a une telle matière, c'est ce que j'ai expliqué quand j'ai en fait défendu ce dossier sur les initiatives, on l'a titré les 20 initiatives citoyennes qui font du bien. On a mis 20 parce qu'on était contraint par la place, si on a 50, 100, enfin vous le savez mieux que moi, vous parcourez...
Je vous en propose 5000.
C'est ce que vous m'aviez dit. Et donc je suis ravi en tout cas que vous m'accueillez dans votre émission. Parce que pour moi, c'est un modèle. Carnet de campagne, c'est la France dont on parle assez peu. À la rédaction, j'ai dit, mais il faut parler de ces territoires vivants, de ces initiatives qui, malheureusement, n'émergent pas toujours à l'échelon national. Heureusement, quelques-unes y parviennent. On en parlera un peu plus tard dans l'émission. Et c'était un des critères, d'ailleurs, de choix des initiatives. C'est que les gens lisent ce dossier, tombent sur une idée, se disent, mais pourquoi je ferais pas ça à côté de chez moi? Et il y en a énormément des initiatives qui sont, exemplaires, reproductibles. Et on a essayé aussi de coller un peu à l'époque. On a démarré ce dossier avant que démarre le phénomène des gilets jaunes. Et en fait, en le relisant aujourd'hui, je me rends compte qu'on a 3 ou 4 initiatives qui concernent le transport dans les régions plutôt rurales. Au début, on a l'impression que c'est un petit peu un bricolage. Et en fait, on se rend compte que ça fonctionne. Il faut que simplement quelqu'un se réveille un jour avec une idée et qu'il ait envie de la poursuivre.
Mais parce que vous avez à la fois sélectionné des initiatives locales, mais aussi des initiatives qui se sont portées à l'échelle nationale.
Ouais, nationale. Et c'est pas forcément toujours possible. On a ce type de réseau, par exemple, d'autostop. Alors là, c'est très artisanal. Hein. Ça s'appelle Réseau Pouce. Et ben, cette initiative qui est née dans le Tarn-et-Garonne, elle est en train de s'étendre. Et c'est très simple. On met une petite étiquette sur sa voiture pour dire qu'on peut prendre quelqu'un. Quelqu'un a sa carte, en fait, pour pouvoir monter dans votre voiture. C'est une espèce d'autostop à l'ancienne, un tout petit peu organisé. Et j'imagine que si cette idée pouvait prospérer, elle rendrait service à énormément de gens en France aujourd'hui.
Il y a un autre exemple à l'échelle nationale. On l'avait localisé, nous, très précisément, lorsqu'il était né. Dans le Lot-et-Garonne, sont les chauffeurs de proximité dans les zones rurales. Ouais. Donc c'est surtout à l'égard de personnes âgées qui ont des difficultés de locomotion, et puis en plus de ça, un manque de moyens de transport. Là, des personnes se mettent à disposition. Il y a un service rémunéré, hein, quand même.
Oui, la rémunération est très modeste. On le sait, les réseaux de bus, les départements font des efforts, mais il y a un moment où, dans les heures creuses, par exemple, quand on va aller chez le médecin ou à l'hôpital du coin, la plupart du temps, il n'y a rien. Si on n'a pas un neveu, un voisin pour vous conduire, on reste en plan. Et cette initiative est en train de prendre une échelle nationale. On est bien dans le service de proximité à des tarifs modestes et qui s'adresse à tout le monde.
Pourquoi les médias boudent souvent ces infos? Alors, le magazine Ça m'intéresse s'y penche et c'est formidable, mais pourquoi? Parce que la bonne solution, c'est pas la raison de travailler des journalistes?
Parce que les médias qui ont le plus d'impact sont les médias nationaux et ils ont ni le temps, ni sans doute peut-être les moyens d'aller lire la presse régionale ou d'écouter les radios locales. Il faut aller fouiller, il faut aller chercher et puis certains médias le font, vous le faites sur certaines chaînes de télévision, on peut voir ça, mais c'est vrai que c'est aujourd'hui. Moi, ça fait des années que j'essaie de faire émerger ce type de sujet en me disant si un jour quelqu'un a l'idée de monter la même initiative chez lui parce qu'il l'aura lu dans le magazine, j'aurais pas raté le numéro et peut-être pas en tout cas mon travail.
Vous avez ouvert dans le magazine, Frédéric, aussi des fenêtres sur des start-up. Alors, c'est un terme qu'on emploie dans l'économie classique, enfin moderne mais classique et conventionnelle, et un peu moins dans une économie dite sociale et solidaire. Pourtant, il y a des startups.
Oui, mais alors justement, je me suis amusé à en glisser quelques-unes pour montrer à quel point c'était très similaire en fait à ce qui relevait parfois de la plupart du temps de l'associatif ou comme on l'a dit pour le réseau du Lot-et-Garonne, d'une rémunération très modeste. Et en fait, on est bien sur les mêmes mécanismes. Je me dis, bah, finalement, ces startups, on les appelle startups peut-être parce que elles ont été créées par des jeunes gens et pas par un milieu associatif, mais on est bien dans la même idée d'un service de proximité, de solutions simples qui ne nécessitent pas non plus des millions d'euros d'investissement.
Comme l'appellation court les rues en ce moment, journaliste de solutions, ça vous va, vous, Frédéric ?
Ben, j'aimerais l'être davantage, en fait, pour être honnête. Le dossier donne aussi... On a été chercher aussi quelques initiatives qui relèvent plutôt de la technologie. Moi, je suis bluffé par l'extension d'un réseau qui pose des panneaux solaires dans le sud de la France. La technologie est maîtrisée. Il y a simplement le mode d'emploi avec des cahiers des charges qui sont partagés. C'est en train, là aussi, encore de prospérer. Et on arrive à cette échelle-là à des ambitions qui sont d'autonomiser en énergie, en fait, des zones rurales. Et là, on n'est plus dans la start-up, on n'est plus dans l'associatif, on est dans quelque chose qui prend une autre ampleur.
Et un réseau s'est dessiné à partir de cela, des centrales villageoises.
Centrales villageoises, quel joli nom.
Oui. Il y a un exemple magnifique, c'est l'exemple de la cloche que vous soulignez avec le programme du Carillon, et on en parle tout de suite. Voilà, extrait du dernier numéro de Ça m'intéresse, le magazine de la curiosité, édition mensuelle pour le mois de février, 20 initiatives citoyennes qui font du bien avec Frédéric Carpita et avec Laura Gruarin. Laura, bonjour.
Oui, bonjour.
Ravi de vous entendre parce que donc votre association et surtout votre programme du Carillon est mise en avant dans le dossier Ça m'intéresse. Il y a une photo d'une commerçante que j'aime beaucoup, mais c'est été votre campagne d'affichage, qui tient un carton sur lequel on peut lire « Recharger son téléphone, accéder au Wi-Fi, commerçante, offre petit service gratuit à ceux qui en ont besoin ». C'est une super communication que vous avez eue, là.
Ben, merci. Et l'idée, c'était aussi que ce soit la première communication qui s'adresse directement aux personnes sans domicile. Voilà, pour les informer, en fait, de ces commerçants, de ces citoyens, en fait, qui ont envie d'être solidaires et d'agir dans la lutte contre la grande exclusion.
Mmh. L'histoire de la cloche est récente. L'association est née en 2014.
C'est ça. L'association a été créée en 2014 par un jeune citoyen qui, en fait, s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de citoyens comme lui qui avaient envie d'agir pour aider les personnes sans domicile, mais qui se sentaient souvent démunis, qui ne savaient pas comment faire. Et donc, il a décidé de lancer une association et qui a pour but de sensibiliser, former, accompagner et mobiliser les citoyens dans la lutte contre la grande exclusion.
Frédéric Carpita s'étonnait à juste titre, vu le jeune âge de l'association, de votre vitesse d'expansion.
Oui, en fait, ça a commencé il y a 3 ans dans le 11e arrondissement de Paris et on est aujourd'hui présent dans 8 villes en France. On est à Paris, Marseille, Lyon, Nantes, Bordeaux, Strasbourg, Toulouse et Lille, parce qu'il y a malheureusement beaucoup de personnes sans domicile dans ces grandes villes, et il y a beaucoup de citoyens qui ont envie d'agir.
Frédéric. Oui, ce qui m'a frappé aussi, c'est que depuis 2014, vous avez donc créé la cloche, le carillon, donc c'est, on l'a dit, vous venez de le dire, des commerçants qui viennent en aide aux personnes sans domicile fixe. Et puis il y a aussi les autres initiatives que j'ai trouvées extraordinaires, les clochettes, donc c'est la fabrique de biscuits, et la troisième...
La cloche à biscuits, c'est une biscuiterie d'insertion qui propose à des personnes sans domicile un travail, en fait, qui confectionnent des biscuits, les livres à vélo et les vendent. Donc c'est un temps de travail progressif, ils peuvent travailler des fois 1 heure dans la semaine, ça leur permet vraiment de reprendre confiance et de retrouver petit à petit une activité professionnelle. Et on a les clochettes, donc là c'est d'inclure les personnes sans domicile dans les initiatives urbaines qui sont portées par des citoyens, comme par exemple ce qu'on voit beaucoup maintenant dans les grandes villes, les jardins partagés, les potagers urbains, toujours dans l'optique de recréer du lien social. En fait, tous nos projets ont pour but d'engager les citoyens sur 2 choses qui nous semblent indispensables et qui à la portée de tout le monde, c'est déjà changer de regard sur les publics en situation d'exclusion et recréer du lien social pour lutter contre leur isolement.
Et alors pour repérer, Laura, les partenaires commerçants, entre autres, il y a un affichage, le carillon ?
Oui, alors aujourd'hui, il y a plus de 700 commerçants qui font partie du réseau du Carillon en France. Et en fait, il y a un petit label solidaire donc qui représente les trois cloches du Carillon, qui est apposé sur la vitrine avec les pictogrammes qui représentent les services qu'ils proposent. Donc ça peut aller des toilettes à chauffer un plat. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les habitants peuvent participer ou prépayer un sandwich pour une personne sans domicile pour aller lui donner sous forme de bon.
On a eu les prémices de ce mouvement avec les cafés suspendus. Vous vous en êtes inspiré?
Exactement, c'est le principe du café suspendu qui est né à Naples, mais qui était peu développé parce qu'en fait, souvent, les gens mettaient des produits en attente, mais les personnes dans le besoin n'étaient pas informées ou n'osaient pas passer la porte des commerçants. Donc nous, on travaille avec des partenaires de l'action sociale, les associations de maraude, les accueils de jour, etc., qui informent les personnes dans le besoin. Et on a surtout des bénévoles qui sont eux-mêmes à la rue et qui, en fait... parlent à leur père et qui sont les mieux placés pour leur dire va chez ce commerçant, tu peux avoir un café gratuitement, tu seras bien reçu et ça fonctionne assez bien grâce à ça.
Ouais. Mais il y a aussi un petit guide pour les personnes de la rue.
Oui, tout à fait. On imprime des petites listes papier qui répertorient tous les commerçants solidaires du réseau. Il y a une liste par ville.
Ce que j'ai noté aussi, pardon, c'est qu'il y a il y a un nombre de services conséquent désormais représentés par des petits pictos. Outre l'accès aux toilettes ou le wifi, il y a bien d'autres choses en fait.
C'est ça, il y a plus de 25 services qui ont été répertoriés. Cette liste continue de grossir au fur et à mesure en consultant les personnes sans domicile. Et c'est elles qui nous disent, il n'y a pas assez de bagagerie, ce serait bien d'avoir des commerçants qui mettent à disposition une cave pour stocker ses affaires, pour pouvoir aller faire ses démarches, etc., ou aller travailler. Et la liste de services continue de grossir.
Merci beaucoup, Laura, qui est responsable du pôle inclusion et sensibilisation de l'association La Cloche, donc créée en 2014 avec, depuis décembre 2015, le Carillon. Laura, comme tous les membres de l'association, est campaniste. On garde l'esprit de ceux qui réglaient les cloches et les clochers. Donc, on se dit campaniste à La Cloche. Lacloche.org pour l'adresse et puis à la page Facebook. Et le Carillon, c'est lecarillon.org. Si vous voulez rejoindre le mouvement, vous, commerçants, habitants, voisins, n'hésitez pas. Le magazine de la curiosité, ça m'intéresse, mois de février, le dossier des bonnes nouvelles que vous pouvez suivre et lire et partager, et le site c'est samintéresse.fr. Merci Frédéric Carpita.
Merci Philippe.
Carnet de campagne, Philippe Bertrand sur France Inter.
Je profite que nous allons détailler à partir de demain les initiatives dans Lyon pour vous en fournir déjà une qui a été créée par Patrick, enfin une première piste avec une entreprise créée par Patrick correspondant des carnets à Poigny, dans cette localité au nord d'Auxerre, siège Localink-Unscope qui emploie 3 personnes associées. Localink s'apparente à une plateforme de diffusion de produits locaux en circuit court. Elle est ouverte depuis la fin 2017. Déjà 33 producteurs, 500 articles. Elle dessert quelques 303 communes dans un rayon de 35 km autour de son entrepôt. Il y a un plus, elle annonce une organisation mutualisée du transport, à savoir que les fourgons après livraison ne reviennent pas à vide, mais reviennent chargés des produits enlevés chez les producteurs. L'impact carbone est réduit de 80%. Pas d'emballage perdu puisque les contenants de livraison sont consignés. Les véhicules tournent au gaz naturel. L'entrepôt ne consomme que de l'énergie 100% renouvelable. Et puis en plus, on peut régler ses commandes avec la monnaie locale, la cagnole. Et cet argent est investi et utilisé par la NEF pour financer des projets de développement durable. Localink.fr pour l'adresse. Dans Lyon, Aveyron, Nicolas Stoufflet, le jeu des 1000 euros.